Et maintenant, Mélanie, on va passer à un tout autre sujet. On va se pencher sur notre fertilité. Comment la booster quand on souhaite concevoir un enfant? Comment évaluer qu'il y a peut-être un problème de ce côté-là? C'est notre dossier santé du jour.
Europe 1, 11h30.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Tout de suite, nous accueillons donc notre invitée santé. C'est vous, professeur Nathalie Massin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin de la reproduction au centre AMP de l'hôpital intercommunal de Créteil. Alors, avant de nous expliquer comment on peut préserver sa fertilité et vérifier ses propres capacités à concevoir un enfant, est-ce que d'un point de vue général, on peut parler de la fertilité des Français? Quel est le constat aujourd'hui? Quelle est l'évolution, on va dire, ces dernières années?
Bon, il y a clairement une diminution depuis plus de 7 ans, puisque si on regarde le taux de naissance, on était globalement autour des 800 000. Et là, on atteint pas mal les 700 000. Alors, c'est vrai qu'il y a eu l'effet Covid, mais vraiment, depuis 7 ans, on voit cette diminution de la natalité en France qui peut être liée pas uniquement à une baisse de la fertilité, mais aussi à un phénomène de société.
Et cette baisse de la fertilité, elle concerne plutôt les femmes ou les hommes ou les deux pareils?
Alors, les deux, différemment. Donc, il y a vraiment scientifiquement démontré aujourd'hui une baisse de la qualité du sperme depuis, si on compare par rapport à 20-30 ans. Donc ça c'est un fait avéré. Et puis pour les femmes, c'est peut-être un peu plus compliqué parce que comme la fertilité chez la femme est extrêmement liée à l'âge et que les femmes conçoivent de plus en plus longtemps, on manque d'études, de recherches pour savoir si une femme de 35 ans aujourd'hui, elle a réellement moins de chances de concevoir qu'une femme de 35 ans il y a 30 ans.
Ouais, c'est ça, c'est difficile de comparer. Est-ce que la France, donc vous avez décrit un peu pour la France, mais j'imagine que c'est valable pour à peu près tous les pays industrialisés, en tout cas, c'est ça?
Oui, on en a Europe, même c'est partout, exactement ouais. La même chose, on voit très bien. Donc en France, on a été longtemps les champions du nombre d'enfants par couple. Hein. On était au-dessus de deux, on est resté longtemps au-dessus de deux, alors que les autres pays en Europe étaient déjà descendus. Bon, ça y est, là, on est à un petit peu plus que 1,8, je crois. Donc,
comme les autres.
Rien à voir avec les pays en voie de développement.
Évidemment. Oui. D'ailleurs, face à ce constat, l'OMS a même revu à la baisse les normes de fertilité convenables. On est passé de 30 millions de spermatozoïdes à 15 millions. On a dû donc revu les standards acceptables à la baisse, c'est bien ça, professeur?
Oui. Oui, tout à fait. Donc sur la concentration des spermatozoïdes et également sur la mobilité. Et donc l'OMS a vraiment mis la santé reproductive au sein de la santé, ce qui était quelque chose un petit peu neuf. Donc finalement, de reconnaître que d'être en bonne santé, de vouloir faire un enfant, c'est fait partie aussi d'être en bonne santé. Et les recommandations ont changé, c'est-à-dire que la définition de l'infertilité, c'était 2 ans d'essai bébé sans réussite. Et donc là, maintenant, on est passé à 1 an. Ah oui. Il y a des recommandations, quand on a plus de 35 ans, de faire un petit point au bout de 6 mois et de ne pas attendre trop longtemps.
Les choses ont changé, effectivement. Alors, vous avez cité justement en exemple l'exemple de la femme de 35 ans, parce que c'est clairement, je crois, à cet âge-là que chez les femmes, ça bascule. Hein.
Oui, alors c'est vrai que j'aimerais bien détricoter un petit peu ça, parce que ce n'est pas un effet on-off, ce n'est pas blanc-noir. On a en fait entre 20 ans et 45 ans, je dirais, toute une gamme de gris qui s'étend. Alors, c'est vrai que le gris devient un petit peu plus foncé à partir de 35-38 ans, mais il faut vraiment avoir conscience que il y a pas vraiment un moment où on peut parler de chute. En plus, c'est extrêmement angoissant de parler de chute. Et après, c'est pas parce qu'on dit que ça baisse que ça n'est plus possible. Mm-hmm. C'est juste qu'il faut entendre que
c'est moins performant.
Voilà, ça marche moins bien à chaque cycle, donc il faut s'attendre à mettre plus de temps pour faire un bébé. Mais en gros, les statistiques montrent qu'une femme qui va commencer son projet de grossesse à 30 ans a 5% de risque de rester sans enfant dans sa vie, à 35 ans 15% et à 40 ans 30%. Donc c'est vrai que c'est beaucoup 30%, ah oui. Mais en même temps il faut regarder de l'autre côté.
Il y a 70
qui font leur bébé effectivement à 40 ans, mais elles mettront un petit peu plus de temps. Donc il faut faire attention à cette notion de l'âge qui est effectivement très stressant.
On a l'impression que tout s'écroule dans nos ovaires à 35 ans
c'est
fini.
Voilà. Non. Par contre, effectivement, ça veut dire que c'est vrai que ça marche moins à chaque cycle, donc ne pas attendre si ça ne marche pas.
Donc la meilleure des choses à faire si on veut maximiser ses chances, c'est quand même de l'avoir à 20 ans, entre guillemets.
Oui, mais bon, je crois qu'il faut être
d'être
prêt.
En conscience.
Aujourd'hui, on a un sentiment de jeunesse qui est beaucoup plus long qu'avant.
Et puis, on va peut-être pouvoir congeler ses ovocytes bientôt.
On va pouvoir congeler effectivement ses ovocytes. C'est autorisé dans la nouvelle loi. Voilà. Attention, pas à n'importe quel âge.
Exactement. Voilà. Et les femmes pourront peut-être prévoir, effectivement. Alors, avec l'espérance de vie qui s'allonge, on aurait pu penser que la période de fertilité des femmes s'allongerait aussi, mais ce n'est pas le cas. En fait, la ménopause, elle ne survient pas plus tard.
Alors, les statistiques, là, il y a une étude récente qui montre qu'effectivement, si, C'est le cas. Bon, en fait, ça, 2 ans, on a gagné 2 ans.
Ah, c'est déjà quand même, ça.
Ouais. Ouais, mais on n'a pas gagné 2 ans de fertilité.
Ah, c'est juste la ménopause qui
oui,
un peu plus
oui,
tardive.
Les femmes sont en moyenne ménopausées 2 ans plus tard. Mais ce qui fait vraiment la chance de conception, c'est la qualité de l'ovocyte. Mmh. Et l'ovocyte, en fait, c'est une cellule qui naît avec la femme. Et donc, à 40 ans, bah, c'est une cellule de 40 ans. Hein. On peut très bien imaginer, on voit très bien déjà nos cellules du visage qui se renouvellent et on voit les rides. Et ben, c'est un peu la même chose. Il faut voir sur les ovocytes. Mmh. C'est une cellule qui est là depuis 40 ans et qui a souffert.
On n'arrête pas de parler des femmes, là, mais les hommes, est-ce que l'âge, ça a un impact sur eux et sur leur niveau de fertilité?
Oui, il y a aussi un impact, mais c'est vrai que l'impact, il est moins visible. Hein. Là, par exemple, pour donner ses ovocytes, on peut... la loi de... en France, on accepte les femmes jusqu'à 37 ans. Mmh. Les hommes, c'est 45 ans. Mmh. Et c'est vrai que l'homme vieillit moins vite, en quelque sorte. Mais dès 30 ans, l'homme, on voit un impact sur le risque de fausse couche, les malformations sur les bébés, etc. Donc, il y a un impact, mais il est moins important, moins flagrant.
Et l'impact du tabac, est-ce que vous pouvez nous en parler?
Elle vient d'arrêter de fumer, donc elle est très contente.
Enfin, j'ai 46 ans, j'ai pas de projet de grossesse.
Non. Alors oui, le tabac, bah, c'est aussi mauvais pour l'homme que pour la femme. Hein. Les statistiques,
c'est bien de le dire, ça aussi.
Voilà, en fertilité naturelle et en fertilité et en assistance médicale à la procréation, on voit très bien que les chances de conception sont à peu près divisées par 2.
Ah oui,
alors, donc ça peut paraître pas grand-chose, c'est vrai que ce n'est pas contraceptif, hein, le tabac. Et ce que je dis souvent, bah, vous avez peut-être des copines qui ont fait leur bébé alors qu'elles fument comme des pompiers, et puis moi je vous dis d'arrêter, je vous conseille d'arrêter. Mais en fait, bah, leur copine, peut-être qu'au lieu de faire leur bébé en 6 mois, elle l'aurait fait en 3 mois. Donc c'est ça en fait, le délai de conception est multiplié par 2. Les chances d'implantation, quand on prend un embryon d'un homme ou d'une femme qui pousse et qu'on le met dans l'utérus, il a 2 fois moins de chances de s'implanter. Et ça avance l'âge de la ménopause chez la femme, 2 ans plus tôt, quand on fume.
C'est pas... On a bien fait d'arrêter. Bref, merci professeur Massin. Dans quelques minutes, on va rentrer un peu plus dans le détail et voir comment on peut précisément évaluer notre propre fertilité. Il existe même des consultations spécialisées aujourd'hui pour faire ce genre de check-up. On verra également s'il y a des moyens fiables de booster nos chances de concevoir un enfant. On va vous détailler tout ça sur Europe 1. Alors restez avec nous.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous en direct jusqu'à 12h30. C'est votre émission bien-être tous les matins. Et à nos côtés pour parler de fertilité, le professeur Nathalie Massin. Vous êtes médecin de la reproduction, responsable du centre d'aide médicale à la procréation à l'hôpital intercommunal de Créteil. On parlait juste avant du tabac. Qu'en est-il du cannabis sur la fertilité?
Ah oui, c'est vraiment un problème, d'autant plus que la consommation de cannabis est plus importante chez les plus jeunes à un âge finalement où l'exposition est plus risquée et souvent associée déjà au tabac, donc c'est déjà un problème en soi. Alors moi j'ai l'habitude de sortir une petite histoire, donc je ne suis pas sûre de sa véracité à 100%, mais qui a actuellement un contraceptif masculin qui est à l'étude à partir de cannabinoïdes pour dire qu'il y a vraiment un impact sur la mobilité des spermatozoïdes du cannabis, sans compter l'impact sur la diminution de la fréquence des rapports sexuels.
Oui, on est un peu plus endormi, non, j'imagine. Du coup ça veut dire que ça n'endort pas que les neurones, entre guillemets, je plaisante évidemment, mais ça endort aussi les spermatozoïdes.
On peut le penser.
C'est sur les hommes surtout plus que sur les femmes l'effet?
Oui. Oui, tout à fait. Alors attention à la chicha, parce que c'est vrai que ça, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus une consommation en tout
très
cas.
Très mauvais pour les poumons, ça c'est sûr aussi.
Oui, oui, un paquet. Hein. Quand on fume chicha, c'est un paquet de clopes, donc vous imaginez l'impact sur la fertilité. Donc quand on veut faire un bébé, pas de chicha.
Et l'exposition aux pesticides, là encore, ça pourrait causer une baisse de la fertilité?
Oui, alors en fait, ce sont des perturbateurs endocriniens. Je pense qu'on a déjà
tous beaucoup
entendu
parlé, bien sûr.
Ça. Voilà. Le problème, c'est qu'ils sont ubiquitaires, ça veut dire qu'on en trouve partout.
Mais donc, par exemple, dans nos objets quotidiens.
Voilà, exactement.
Dans les bougies parfumées, ça c'est des perturbateurs endocriniens.
Voilà, tout à fait, effectivement, à travers les plastiques.
Les produits ménagers, je crois.
Les produits ménagers, les cosmétiques.
Donc difficile de les éviter, ceux-là, quand même, il y en a partout dans notre quotidien.
On peut choisir. On peut choisir. Alors, il y a des petites. Il y a des petites plaquettes qui sont très bien faites, qu'on trouve très bien sur Internet. Ce que je mange, comment je fais mes courses, etc. Donc, pour savoir ce qui est mieux d'utiliser, par exemple, éviter de manger, de faire réchauffer ses aliments dans le plastique. Ça, c'est tout bête. Mais...
Particulièrement quand on essaie d'avoir un bébé.
Oui, voilà.
Bien sûr, d'accord. Est-ce que le stress et le trop-plein de stress, surtout, peut avoir avoir un impact peut-être. Hein. Moi, je sais que j'ai mis du temps à avoir des enfants, c'était difficile. Et on nous disait, arrête d'y penser, ça viendra. Comme si le fait que je stresse allait avoir un impact sur ma fertilité, c'est vrai ou pas?
Ben, en tout cas, il n'y a rien de plus stressant que de vous dire d'arrêter d'y penser.
Ben oui, c'est encore pire.
Voilà. Alors, c'est une question compliquée parce que je pense que c'est un peu l'œuf et la poule. C'est-à-dire qu'effectivement, ben, quand on n'arrive pas, on devient plus stressé. Et finalement, est-ce que ça participe? Ben, je crois qu'il faut quand même rester un peu cool et pas trop culpabilisé. Hein,
mais on n'a pas d'études cliniques qui prouvent l'impact du stress sur
voilà,
votre fertilité.
Il y a des études qui ont été faites pour doser les marqueurs de stress au moment où, par exemple, on fait un transfert d'embryon. Et les études sont assez discordantes. Certaines disent qu'il n'y a vraiment pas d'impact, même si les facteurs dans le sang de stress sont élevés. Donc, il faut relativiser.
Alors, professeur Massin, dans votre établissement, vous avez mis en place un test baptisé Fertilité Check-up. Alors, c'est quoi ce test et ça s'adresse à qui?
Alors, on a proposé de faire cet examen aux femmes sans qu'il y ait de nécessité d'avoir essayé de faire un bébé et de ne pas avoir réussi, et sans même nécessité d'avoir donc un partenaire, parce que donc ça fait 4 ans qu'on fait ce test, mais il y a 4 ans, et ben évidemment, quand on voulait avoir un point sur est-ce qu'on a un problème pour faire un bébé, et bien si on n'avait pas essayé, si on n'avait pas de partenaire, c'était pas possible, et donc toutes les femmes seules ou les couples de femmes ne pouvaient pas avoir accès à des examens. Donc le principe, c'est un examen assez complet, il y a un petit questionnaire où on prend tous les antécédents, et puis après on fait une échographie qui va permettre de vérifier
les ovaires,
l'utérus, les trompes et vérifier qu'il n'y ait pas d'endométriose. En fait, l'objectif, c'est de chercher un obstacle à la survenue d'une grossesse parce que c'est toujours mieux de savoir que de ne pas le savoir. Et puis, évidemment, on va parler de réserve, j'imagine.
Quelle réserve ovarienne?
C'est ça.
Alors justement, c'est quoi la réserve ovarienne?
Alors,
vous la mesurez surtout?
Oui, voilà. Alors la réserve ovarienne, il faut... Donc on a deux ovaires. Enfin, les femmes ont deux ovaires. Il faut se représenter ces ovaires comme deux sac de billes et on remplit notre sac de billes quand on est dans le ventre de notre maman.
À la naissance, il est bien fourni ce sac de billes.
Voilà, à la naissance, on en a 1 million, mais on a déjà commencé à les perdre.
Ah oui.
Et ce stock, il est défini. Ça veut dire que contrairement pour les hommes où les spermatos, ils peuvent se multiplier, c'est pas bon. Je refais un
petit cours de SVT.
Voilà, mais pour la femme, bah, le sac de billes,
on n'en reproduit pas au fur et à mesure.
Non,
quoi, hein, ouais.
Pas du tout. Et puis en plus, il est percé, donc on les perd au fur et à mesure.
C'est une belle image. Enfin, au moins, on comprend bien. Hein. Non, mais c'est vrai, je trouve.
Alors donc, ce qu'on fait avec l'échographie, en fait, c'est on regarde le dessus du sac de billes. Donc évidemment, on peut pas voir toutes les billes qu'il y a à l'intérieur, mais en fonction de ce qu'on voit sur le dessus, ça donne une représentation de ce qui reste à l'intérieur. Et donc, bah, ça nous donne effectivement une idée de s'il reste beaucoup de billes dans l'ovaire ou pas.
D'accord. Il n'y a pas une prise de sang sinon pour savoir où on en est de cette réserve ou des choses comme ça.
Voilà,
si, on peut faire ça aussi.
Oui, ça s'appelle le dosage de l'AMH, hormone antimullérienne. Et en fait, ce qu'on peut voir à l'échographie quand on compte justement ces follicules ou le dosage de l'AMH, ils sont extrêmement bien corrélés. Donc nous, dans notre test, on n'a pas souhaité faire l'AMH parce que c'est une prise de sang, donc bon, c'est pas forcément très agréable. Comme on voit déjà cette réserve à l'échographie. Mmh. Et en plus, on n'a pas besoin d'attendre le résultat de la prise de sang.
Et c'est dépendant de l'âge, j'imagine, ou est-ce que parfois, je ne sais pas, Julia est un petit peu plus âgée, légèrement que moi.
Hyper fertile,
mais est-ce qu'elle peut avoir une réserve ovarienne qui serait meilleure que la mienne? Enfin, je veux dire, il y a des cas, j'imagine, étonnants, peut-être parfois.
Oui, tout à fait. C'est une très bonne question parce que c'est vrai, autant on sait que la qualité de l'ovule, il est vraiment lié à l'âge. Hein. Vous avez 30 ans, vous avez une qualité de 30 ans, 35 ans. Par contre, le nombre est vraiment très variable d'une femme à l'autre. Et effectivement,
elle a peut-être plus de billes que moi.
Exactement.
C'est possible.
Exactement.
Mais peut-être de moins bonne qualité que vous, Mélanie. Faudrait faire le test.
Mais c'est la qualité qui compte pour faire un bébé. Et donc, j'insiste là-dessus parce que c'est vrai qu'on voit de plus en plus se multiplier sur les réseaux des dosages d'AMH, des autotests de fertilité pour savoir notre niveau de fertilité, alors que l'AMH n'est pas du tout un facteur de chance de conception. C'est éventuellement un facteur qui va nous dire si on a encore beaucoup de temps devant nous ou pas pour concevoir. Et encore, ce n'est pas si évident que ça parce que les femmes qui ont un niveau bas, en fait, gardent un niveau bas assez longtemps. Et si elles n'ont pas besoin d'avoir accès à l'assistance médicale à procréation, c'est-à-dire si on n'a pas besoin de leur soutirer beaucoup de billes pour pouvoir faire un bébé, eh bien, ça ne les empêche pas de concevoir naturellement. Naturellement, il suffit d'une bille tous les mois.
Hein. C'est ça, exactement.
Et alors, pour les femmes justement qui nous écoutent, quels sont les conseils de base qu'il faut retenir en préventif? Comment prendre soin de sa fertilité?
Alors, tout ce qu'on a vu sur l'exposition à l'environnement,
pas
tous les
tabac,
facteurs
de risque... Pas de tabac, pas de cannabis, pas de chicha, ça on a compris.
Voilà, c'est des rapports sexuels.
Oui, ça vraiment, mince, on avait oublié.
Voilà. Et puis, effectivement, s'interroger dans son projet de vie. Et si on voit qu'on n'a pas le moyen, on va dire, de pouvoir démarrer une conception avant 35-37 ans, effectivement, réfléchir avec un professionnel de santé, à savoir si ça peut avoir un intérêt de faire une préservation de la fertilité. Mais je dirais, on pourrait militer pour le fait que autour de 30 ans, toutes les femmes puissent avoir une échographie pelvienne, justement pour dépister s'il n'y a pas des problèmes pour entraîner ça. Par exemple, on a vu samedi une femme en check-up qui était complètement asymptomatique et on lui a découvert des kystes des deux côtés des ovaires. Oui. Donc 32 ans, aucun souci hein, pour faire un bébé. Mais si elle envisage de reporter son projet de conception plus loin ou qu'elle envisage plusieurs enfants, eh bien on sait que ces kystes, en fait, ils vont faire vider ses ovaires plus vite et qu'elle risque de se retrouver effectivement à un moment où on ne pourra pas l'aider pour faire un bébé.
Et donc, qu'est-ce que vous lui avez dit à l'issue de ce check-up ?
Vite, allez faire un bébé tout de suite.
Oui, c'est ça. C'est ça la préconisation ?
Alors, oui, bah dans ces cas-là, effectivement, on dit que la réserve risque de diminuer plus rapidement pour elle. Et donc, si l'idéal, c'est d'envisager un projet de conception sans trop tarder. Mais ça c'est extrêmement stressant aussi de pouvoir dire ça à une femme. Et donc, en l'occurrence, dans ces cas-là, on refait un petit point quelques mois après et on discute une préservation de la fertilité.
Pour terminer, est-ce qu'on voit hein, parfois des naturopathes conseiller des choses ou des compléments alimentaires soi-disant qui boosteraient la fertilité ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment valables et fiables ou est-ce que, bah, en dehors des conseils dont on a parlé juste avant, bah, tous ces petites choses, ça ne fonctionne pas ?
Non, il y a rien de,
il y a
rien
de pilule magique.
Non, il y a pas de pilule magique, mais après le mental, quand voilà, ça peut compter.
L'effet placebo, quoi, c'est ça peut-être.
Voilà, bah, oui, je dis toujours qu'on est le meilleur médicament, le médecin est le meilleur médicament à donner aux patients, évidemment, ouais.
Alors merci beaucoup professeur Moissin de nous avoir accompagnés ce matin et de nous avoir donné tous vos bons conseils en matière de fertilité, que ce soit d'ailleurs pour les femmes comme pour les hommes. Merci à vous.